Bonjour Bérénice. Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette chronique du CNV.
Bonjour Sophie.
Aujourd'hui, nous allons aborder un thème délicat, être aidant de son conjoint.
Alors dans cette chronique, nous ne voulons pas oublier ce qu'il y a d'un proche, un parent, un enfant. Et même s'il existe beaucoup de points communs dans les diverses situations d'aidant et d'aidé, il y a certaines spécificités au sein du couple que nous allons explorer aujourd'hui.
D'où vient cette particularité ?
Eh bien, notre conjoint, nous l'avons choisi, ce qui n'est pas le cas de nos parents, oncles, tantes, enfants. Avec ces derniers, il y a un lien, celui du sang, qui ne pourra jamais se défaire. Nous avons choisi notre conjoint pour plein de raisons, notamment par amour pour lui. Et même si nous savons qu'il y aura des difficultés, des épreuves à traverser pour notre couple, nous n'envisageons peu ou pas le pire, comme la maladie, un accident qui viendrait profondément changer la personne dans ses capacités physiques, intellectuelles, affectives, relationnelles.
Il est important de souligner que, aidant ou aidé, nous sommes avant tout des personnes.
Avant d'être des malades, des dépendants, des personnes âgées ou le conjoint d'eux, nous sommes une personne digne d'aimer et d'être aimée. J'ai eu l'occasion de lire récemment le livre de Sophie Baru, « Je rentrerai avant la nuit ». Alors elle raconte son histoire de couple qui a basculé après quelques mois de mariage avec l'accident de vélo de son mari, le rendant hémiplégique et lésé cérébral. 20 ans plus tard, elle nous confie que ce qui l'a fait tenir, c'est justement cet amour et le fait de vouloir réciproquement le bien l'un de l'autre. Dans le cadre de la chronique, je vais aborder des généralités, alors que chacun de nous est unique. Chaque couple est unique. Nous ne nous sentirons pas forcément concernés par certaines choses, et il n'y a pas de solution toute faite, car nous sommes tous différents, et cela fait la richesse de chacun. L'idée, c'est de pouvoir piocher ce qui nous conviendrait.
Démarrons par les émotions. Peur, colère, tristesse et joie.
Ce sont en effet les 4 grandes familles d'émotions que nous éprouvons tous les jours. À l'annonce de la maladie ou d'un accident, mais aussi dans les jours qui vont suivre, ce sont plus peur, colère, tristesse qui seront ressenties. Déjà, ne portons pas de jugement sur les émotions que nous éprouvons. Nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent être agréables ou désagréables à vivre. Nous pouvons ressentir toutes ces émotions, elles ne font pas de nous des personnes bonnes ou mauvaises. Je peux éprouver du ressentiment envers mon compagnon en raison de tout ce que je suis obligée de faire, de vivre, de supporter du fait de ses incapacités, de sa fragilité. Et cela ne fait pas de moi un monstre. J'ai le droit de ressentir de la peur, du découragement, d'avoir des pensées que l'on pourrait juger comme ignobles, comme vouloir la mort de l'autre. En fait, le travail va être d'apprendre à accueillir ces émotions pour les dépasser et réaliser qu'au-delà de ce que je ressens, c'est à la maladie que j'en veux. Que je suis révoltée par cette situation, par les obligations créées, et non pas par la personne que j'accompagne, avec laquelle je partage ma vie. Ce n'est pas la mort de l'autre que je souhaite, mais la fin de cette maladie, de ce handicap, et de tout ce que cela me fait vivre de désagréable. Et puis, nous pouvons éprouver fort heureusement des moments de joie. Ne culpabilisons pas de rire avec des amis, des collègues, pendant que notre conjoint est dans la souffrance. Ces temps de légèreté aident à vivre le quotidien et à être un soutien.
Se connecter aux émotions peut permettre une meilleure communication entre les conjoints.
Finalement, au-delà des mots qui parlent de l'anodin ou de l'essentiel, la parole vraie prend ses racines dans le cœur des émotions. La peur, la culpabilité, la tristesse, la honte, la colère, la rancœur, la méfiance, le doute, autant d'émotions différentes. La crainte de les faire jaillir fait qu'on préfère garder souvent le silence. Alors n'oublions pas l'amour, la tendresse, l'affection, la reconnaissance, la vulnérabilité, qui sont des sentiments sur lesquels on reste parfois trop pudique. On ne veut pas montrer nos larmes, car on croit que ce serait comme avouer une faiblesse. Notre communication, elle repose sur notre capacité à reconnaître et à accueillir l'intégralité de nos émotions. Pas seulement celles avec lesquelles nous sommes à l'aise. Par des questions comme « Que ressens-tu »« Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi »« Qu'est-ce qui te met si en colère ?» On parvient petit à petit à ouvrir un temps de parole, de communication vraie, où il est possible de créer un espace de sécurité et de repos. Dévoiler nos sentiments, se mettre à l'écoute de ceux de notre conjoint, c'est accepter de construire avec nos fragilités qui peuvent être source de richesse.
Vous nous invitez tout d'abord à prendre soin de nous avant de prendre soin de l'autre.
Quand on voyage en avion, on assiste toujours à la démonstration des consignes de sécurité. L'une d'entre elles concerne les masques à oxygène qui tombent automatiquement du plafonnier en cas de dépressurisation de la cabine. Si on est accompagné d'un jeune enfant, il nous est demandé de mettre en premier lieu notre masque et après seulement, une fois notre propre sécurité assurée, d'aider l'enfant à mettre le sien. Si on pense d'abord à l'enfant, en s'oubliant soi-même, on risque un malaise lié au manque d'oxygène et l'enfant ne peut plus être aidé.
Le message est très clair. On ne peut aider efficacement autrui si on ne prend pas soin de soi d'abord. Comment faire pour prendre soin de soi ?
Déjà, en prenant soin de son propre corps, par le sommeil, une alimentation équilibrée, des activités physiques, sportives, pourquoi pas des soins de bien-être. Prendre soin aussi de notre cœur, avec, je réinsiste, l'accueil de nos émotions. Je voudrais juste en reprendre quelques-unes. La colère, le ressentiment, contre le malade, contre soi-même. La culpabilité, qui découle en partie de la colère que nous venons de voir. Culpabilité d'éprouver de l'agressivité vis-à-vis de quelqu'un qui n'a jamais demandé à être malade. Elle provient de l'ambivalence de ce que l'on ressent vis-à-vis de la situation d'aide dans laquelle on se trouve plongé. Pour dire les choses clairement, on n'a pas toujours tellement envie de s'engager dans cette relation de soutien. Alors on se pense égoïste, à ne se préoccuper que de son petit confort personnel. On peut se sentir coupable, tout simplement parce qu'on est en bonne santé. La peur, c'est la grande ennemie, c'est celle qui isole, enferme la parole et ligote la pensée. La maladie et le handicap du conjoint nous met face à notre propre vulnérabilité. Nous pouvons ressentir une peur d'être nous-mêmes malades, handicapés, ou de nous retrouver seuls en cas de décès du conjoint. Une voie d'apaisement est d'apprendre à identifier ses peurs. Cela aide à les traverser. Elles demandent impérativement à être nommées et là encore, à être partagées. C'est un moyen puissant de ne pas tomber sous leur emprise. Si nous ne nous avons pas partagé avec notre conjoint, pourquoi pas commencer avec un tiers neutre, dans un groupe de parole, avec un conseiller conjugal et familial, un psy. Et puis, attention au burn-out qui peut arriver, qui révèle toujours une négligence de soi. Il s'installe à notre insu, et d'où l'importance de s'accorder une pause et de savoir solliciter l'aide.
Prendre soin de soi dans son corps, dans son cœur, mais aussi dans son esprit.
Tout à fait. Il est également bon de prendre soin de nous aussi dans cette dimension de notre personne. Qu'est-ce qui nourrit notre cerveau ? Pour certains d'entre nous, les activités intellectuelles sont salvatrices et essentielles. Des activités artistiques, créatrices, dessin, peinture, chant, musique peuvent aussi aider à laisser un temps les problèmes domestiques et mettre une vraie respiration. Nous pouvons nous ouvrir à la spiritualité avec des temps de méditation, de prière. La prière peut être une véritable aide, source de consolation, de joie.
Afin de mieux accompagner les personnes et faire la part des choses entre ce qui vient de la personne malade et ce qui vient de la maladie, vous nous conseillez de nous renseigner sur les conséquences physiques et comportementales de celle-ci et aussi sur les effets secondaires des traitements.
Le caractère de la personne qui souffre risque d'être modifié par son vécu, par le deuil de capacité. Parfois, la conscience est altérée, la personnalité se modifie et finalement, nous pouvons avoir du mal à reconnaître celui, celle que nous avions choisi. Les raisons de notre choix peuvent avoir alors disparu. Certaines pertes sont dues à la pathologie. D'autres peuvent provenir de traitements susceptibles de modifier l'humeur, le comportement. Par exemple, certains médicaments anti-parkinsoniens stimulent une hypersexualité qui va entraîner des demandes incessantes de relations sexuelles ou peuvent pousser certains malades à aller sur des sites pornographiques. Si nous ne faisons plus la différence entre la personne et sa maladie ou les effets secondaires des traitements, nous risquons d'avoir de notre conjoint une image dégradée, violente, blessante pour lui et pour nous-mêmes. Comprendre que cela ne vient pas de la personne est vital pour garder une belle image. C'est important aussi de ne pas rester seul dans cette interrogation. Les médecins sont là pour accompagner dans ces difficultés. Pourquoi pas partager cela dans les associations de malades qui sont très nombreuses et sont des vrais lieux ressources. Pour le conjoint aidant, afin d'être capable de faire face aux moments critiques, la première étape indispensable est de bien comprendre ce dont souffre son partenaire, connaître les manifestations cliniques de la maladie, comprendre le rôle des traitements médicamenteux et leurs effets possibles. Ensuite, identifier les périodes de fluctuation éventuelles, considérer les impacts psychologiques de la maladie sur la personne atteinte, sur nous, sur les proches, notamment les enfants, qui demanderont sans doute eux aussi une vigilance, un accompagnement spécifique.
Nous reprenons avec vous, Bérénice, notre chronique sur être aidant de son conjoint. Nous avons réalisé, avec ce que vous venez de nous expliquer, que certaines frustrations, malentendus ou tensions pouvaient naître d'une mauvaise compréhension de la maladie. Venons-en maintenant aux spécificités du couple.
Le couple ne démarre pas avec la maladie. Il a déjà une histoire avec ses joies, ses peines, son vécu. Sa manière de fonctionner auparavant va influencer sa vie avec la maladie. Les difficultés du couple peuvent être augmentées au moment du diagnostic ou de l'accident et de leurs conséquences. Au contraire, cela peut redonner un élan vital. Il n'y a pas de règle toute faite, mais un nouvel équilibre est à trouver. Le rôle et la place de chacun sont à redéfinir. Il faut aussi réaliser qu'il n'y a aucun couple qui vive une vie linéaire sans avoir de réaménagement à effectuer avec des événements très divers comme le deuil, l'arrivée d'un enfant, le chômage, un déménagement.
Attardons-nous quelques instants sur cette notion de rôle.
Le rôle du conjoint n'est pas celui d'infirmier, ni celui de parent. Je voudrais citer Sophie Baru, que j'ai déjà évoquée en début de chronique. Voici ce qu'elle écrit. « Je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ma grossesse et le fait d'arrêter les soins intimes que je prodiguais jusqu'alors à Cédric. Dès lors que je suis revenue à ma place d'épouse, abandonnant celle de l'infirmière, mon corps a pu recevoir cette petite vie. » Tout était bien à sa place, le corps de Cédric retrouvait sa part de mystère. Comprendre que, en tant que conjoint, nous ne pouvons pas tout pour l'autre est essentiel. Savoir s'organiser, se faire aider, accepter de l'aide n'est pas une preuve de faiblesse. En quoi serais-je une mauvaise personne si j'accepte de me faire aider, accompagner ? Cela peut être aussi un cadeau à faire aux autres, à nos proches, de leur montrer qu'ils sont utiles. Même si cela est difficile, il est sans doute bon de se détacher du regard des autres, du rôle dans lequel ils nous placent, nous assignent. Nous restons humains avec nos limites.
Vous souhaitez attirer notre attention sur quelques pièges.
Il faut d'abord comprendre que, même si nous n'avons pas la volonté de mal faire, certaines attitudes peuvent peser sur la relation à long terme. Il faut identifier les pièges dans lesquels nous pourrions être tombés. Ils ne sont pas les mêmes lorsque la maladie ou le handicap sont temporaires ou s'ils sont chroniques, durables. Dans les pièges à repérer, il y a l'hyperprotection. Cela ne fait que souligner pour la personne malade combien elle est maintenant différente. Et en miroir, il y a le piège de la surdépendance dans laquelle la personne malade délègue à son proche des décisions qui la concernent directement, alors qu'elle est tout à fait capable de les prendre elle-même. Le piège de la fusion, c'est quand on oublie de faire la différence entre soi et l'autre. Pour prendre une image triviale, la non-fusion, ce serait deux œufs sur le plat, chaque jaune est relié à l'autre par le blanc, avec suffisamment d'espace entre les deux pour que l'individualité, le sentiment d'existence propre, soit préservé. La fusion, c'est l'omelette. Tout se mélange, tout se confond. On se perd dans ce que vit l'autre et cela mène à la confusion. Le danger est la perte de l'indispensable distance entre les deux conjoints. On peut se faire aider également par une tierce personne pour comprendre, pour identifier ces éventuels pièges.
Enfin, il y a un domaine bien spécifique au couple, c'est celui de la sexualité.
L'intimité du couple est rarement évoquée, et pourtant il me semble que cela devrait être parlé. Peut-être qu'avant la maladie, ce sujet était peu ou pas abordé, et donc cela risque d'être encore plus dur avec la maladie. La modification, la perte d'une vie sexuelle a immanquablement des conséquences sur la relation. Certaines causes d'insatisfaction et de difficultés sexuelles peuvent être directement liées à la maladie, d'où l'importance de les avoir repérées. S'il n'y a plus de sexualité possible, le couple peut s'interroger sur comment manifester son amour à l'autre, avec la tendresse par exemple, des regards, des mots. Cette question de l'intimité, c'est aussi s'interroger sur comment est-ce que je reste époux, épouse ?
En fait, tout cela demande au couple de consentir à ce qu'il a à vivre et à être dans le présent.
Oui, consentir à un fragile équilibre. Tout change, tout se transforme, doucement ou de façon brutale, par à-coups successifs, de manière définitive ou non. En raison de la maladie, du handicap, chacun des membres du couple fait l'expérience de la perte et du renoncement, comme par exemple à une vie professionnelle, certains projets familiaux, une vie affective et relationnelle parfois. Ce sont de nombreux deuils qui peuvent demander du temps. Il me semble important de souligner que la vie continue. Être dans la nostalgie du passé ou vivre dans l'imaginaire d'un futur qui ne pourra pas avoir lieu n'aide pas à vivre et vivre au présent. Certes, il y a parfois des décisions, des aménagements à prendre pour le futur, comme l'adaptation du logement, des aides matérielles ou des assistances médicales à prévoir. Mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre le moment présent et les instants précieux qu'il nous offre. Une personne malade est une personne vivante.
Pour conclure, Bérénice, vous vouliez terminer avec cette réflexion de Viktor Frankl revenue des camps de concentration.
En effet, voilà ce que disait Frankl. L'important n'est pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que nous apportions à la vie. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure.
Merci Bérénice, et à très bientôt.
Au revoir Sophie, et au revoir à tous ceux qui nous écoutent.